16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission dont l'un des deux animateurs et l'un des deux seulement peut chanter.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement.
Je ne dis pas lequel de deux il s'agit, mais moi perso sur mon PEL j'ai 348 euros. Donc bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais c'est de la voix de David Castello-Lopez.
Je dirais même l'irremplaçable David Castello-Lopez.
Chaque après-midi, vous le savez, on réunit trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, celui effectivement de posséder des thunes, comme le chante si admirablement notre TikToker star David Castello-Lopez. Non seulement il possède des thunes, mais encore n'ont-ils pas eu à lever le petit doigt pour ça. Et oui, ce sont trois heureux héritiers. À commencer par une héritière devenue princesse, la princesse de Breuil. Elle s'appelait Marie Cey. Cey, c'est la marque de sucre, vous connaissez. Et vous allez voir qu'elle n'a manqué ni de sucre, ni d'argent. Car comme le prévoyait leur testament à la mort de ses parents, bah elle s'est sucrée au passage. Puis, je vous raconte l'un des membres d'une des plus riches dynasties des États-Unis, l'homme d'affaires Vincent Astor, qui a hérité de la fortune de son père mort sur le Titanic. Et il en a fait bon usage. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% en vrai d'un héritier qui a été pour de bon votre voisin dans votre enfance à Genève, mais que vous n'avez jamais véritablement croisé.
C'est vrai, Stéphane, tout ce que vous venez de dire est vrai, c'est fou. J'ai été son voisin pendant plus de 10 ans et je n'ai jamais croisé Benjamin Rothschild qui vivait derrière les grandes grilles de son château. Grille où on pouvait lire cette phrase qui m'intriguait quand j'étais petit. Attention, chien méchant. Je me demandais alors pourquoi des gens si riches ne pouvaient pas se payer des chiens gentils. Oh, c'est vrai,
c'est vrai.
Ah, oui, une petite confession que je vous donne, c'est un peu niaise.
Oui, avec nous, comme chaque jour, elle meurt, mais elle n'aboie pas. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, espèce de méchant. Non, c'est tout à fait le contraire. J'aboie beaucoup et je ne mords
oui,
pas.
Ça.
Oui, c'est plutôt ça. Bon, vous savez ce que c'est qu'un mof, messieurs,
hein,
bien sûr. Et bien voilà. Bon, ben, dans les années 40, à l'époque où tout était rationné, on parlait guère de mof, mais plutôt de bof. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bof?
Beurre fromage.
Beurre fromage, voilà, merci. Il y en a un qui suit. C'est tout à fait ça. C'est le sigle des produits alimentaires pendant la guerre. Et c'est devenu rapidement synonyme de ceux qui s'enrichissaient en faisant du marché noir. Donc on peut s'enrichir de bien des façons, et c'est ce que je vous raconterai tout à l'heure.
Alors, c'est une autre façon de s'enrichir, hein. Ça a été le Minitel.
Ah, certains en ont bien profité.
Ah,
hein.
Oui, certains ont bâti leur fortune là-dessus.
Ne l'oublions
d'ailleurs,
pas.
D'ailleurs, on va y revenir avec David Castello-Lopez.
Tout à fait, je vous raconterai l'histoire du Minitel, qui est quelque chose que les gens d'aujourd'hui ne connaissent plus. Je pense que 36-15, ça n'évoque rien aux gens qui sont nés après 1990. Quoi. Mais voilà, je vous raconterai d'où
mais
ça vient. C'est un gros succès français.
Mais oui,
c'est une fierté française.
Oui. Et est-ce qu'il y avait le Minitel en Belgique, Olivier Pouls? Bonjour Olivier.
Non, je pense que c'était une spécificité française.
C'est le seul pays où il y a eu un tout petit peu de, où ça s'est un petit peu étendu, le Minitel, c'est la Belgique, mais sans doute beaucoup plus discrètement qu'en France.
Ah oui, moi je vous confirme, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais vu en Belgique.
Je sais que sinon il serait allé sur 36-15 là tous les jours. Olivier Poul, c'est donc avec nous, Stéphane,
pour
chaque jour.
C'est un produit, l'histoire d'un mec.
Alors pour coller au thème, j'aurais pu vous faire les origines de l'oseille, mais non.
du
caviar. Mais non, j'ai choisi un petit condiment vert qui vous monte facilement au nez, qui s'appelle le wasabi. Et tenez-vous bien, j'ai un petit scoop qui va faire beaucoup de bruit.
Le wasabi n'est pas japonais.
Non, il est japonais, mais vous allez voir que...
C'est quoi ton scoop, alors?
Non, mais vous pensez manger du wasabi que vous ne mangez pas.
C'est vrai? Le vrai wasabi, c'est pas ce qu'on nous donne au restaurant japonais?
Mon Dieu,
on nous aurait menti. Enfin, pour Stéphane, c'est un peu justement comme avaler cul sec un petit pot de wasabi. Burn to be alive, un quiz qui pique, souvent très fort, ce sera comme de juste aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche et beaucoup de sucre dedans, avant d'hériter de ses parents qui ont fait fortune dans le sucre, justement. C'est S-A-Y. Qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est eux. Stéphane Bern nous raconte la riche héritière Marie Cey, devenue princesse de Breuil.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
André de Fouquière, homme de lettres et homme du monde, raconte dans ses mémoires parues en 1951 une habitude qu'avait la princesse de Breuil lorsqu'elle se rendait à l'hôtel. Craignant d'être incommodée par le bruit qu'auraient pu faire ses voisins, elle exigeait une chambre isolée, c'est-à-dire qu'aucun appartement, ni à gauche, ni à droite, ni au-dessus, ni en dessous, ne devait être occupé, ce qui augmentait singulièrement ses notes de séjour. Un détail, pour cette richissime héritière habituée depuis l'enfance aux petits caprices et aux plus grands palaces. Avant d'être la princesse de Breuil, Marie Cey naît. le 25 août 1857 près de Paris, dans une richissime famille d'industriels. Son grand-père Louis, propriétaire d'une raffinerie de sucre à Nantes, a fait fortune en important de la canne à sucre des Antilles. Son fils Constant, le père de Marie donc, a repris l'entreprise Louis Say et compagnie et l'a fait prospérer tout en connaissant une fantastique ascension mondaine. Constant Say meurt en 1871 et son épouse le suit dans la tombe l'année suivante. À 14 ans, Marie est donc orpheline et hérite alors d'une fortune monumentale. L'entreprise reste aux mains de la fratrie Say, mais la gestion en est confiée à un directeur général, Ernest Cronier. La jeune héritière ne s'occupe de rien. Sa sœur, Jeanne, elle, a épousé le marquis de Brissac. Dans la haute société, l'ancienne aristocratie se mêle désormais à la grande bourgeoisie, aux capitaines d'industrie, justement, et aux hommes politiques de la Troisième République naissante. Aux côtés de son aîné, la jeune Marie côtoie le tout Paris. Elle y rencontre le prince Amédée de Breuil, un charmant aristocrate pour qui son cœur s'emballe. Très vite fiancé, le couple fait un voyage dans la vallée de la Loire. C'est là que Marie découvre pour la première fois le château de Chaumont-sur-Loire et qu'elle en tombe littéralement amoureuse. L'histoire raconte qu'elle s'écrit même exaltée « Je veux ça !» Et ce qu'elle veut, Marie l'a. La même année, 1875, peu avant ses 18 ans, Marie épouse Amédée en l'église de la Madeleine à Paris. Le prince est le fils du duc Albert de Breuil, qui était encore un an auparavant président du conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Oh, il se trouve bien sûr quelques vieux barbons pour désapprouver la mésalliance, mais la richesse de la mariée rattrape son absence de noblesse. Sa dot s'élève tout de même à 12 millions de francs or. Bon, à titre de comparaison, le château ne lui a coûté qu'1,7 million de francs or. Personne, à part peut-être la famille Rothschild, ne peut prétendre à une plus grosse fortune que Marie Say. Marie et femme, le prince et la princesse de Breuil donc, peuvent désormais mener leur vie comme ils l'entendent. Amédée est militaire, mais très amoureux de son épouse, il se range à son avis et abandonne la carrière pour vivre auprès d'elle tous les jours. Entre janvier et juin, pour la saison mondaine, le couple séjourne dans son hôtel particulier, au 10 rue de Solferino. Une adresse connue aujourd'hui pour avoir abrité le siège du Parti Socialiste pendant des années. L'été, ils voyagent à bord de leur yacht, en Grèce et même jusqu'en Chine et au Japon. Le reste de l'année, ils le passent à Chaumont-sur-Loire. Le couple restaure le château de fond en comble. Rien n'est trop beau ni trop moderne. Au carrelage à l'italienne, récupéré pierre par pierre d'un palais de Palerme, se conjugue l'électricité et un ingénieux système de pompage qui alimente en eau les 32 chambres et les cuisines. Le prince de Breuil gère le domaine et les finances d'une main de maître. Il a placé la fortune de sa femme et en tire des revenus qui lui permettent de ne jamais toucher au capital. Marie peut donc, en toute quiétude, se consacrer à son activité favorite, recevoir. La princesse tient des listes d'invités qui comptent jusqu'à 8000 noms, soigneusement classés. On y trouve entre autres le personnel de l'intimité, le personnel du bridge, celui des ambassades. Pendant toute la période des chasses, les dîners magiques d'une dizaine de services ponctuent des journées dédiées aux promenades dans le parc et aux jeux nautiques sur la Loire. Les soirées sont réservées aux bals masqués, aux représentations théâtrales et musicales. Pour ses visiteurs de marque, la princesse fait venir tout exprès la troupe de la Comédie française ou celle de l'Opéra de Paris par le train privé qu'elle possède en gare d'Austerlitz.
Bien sûr.
De minuit jusqu'à l'aube, on joue au bridge en dégustant des liqueurs, des sirops et des gelées de fruits. Un bonheur pour les invités, un cauchemar pour les domestiques, qui doivent jongler entre des convives toujours plus nombreux qu'annoncés et des heures de repas très fluctuantes. Comble de l'extravagance, Marie entretient dans le parc de son château une éléphante offerte par le Maharaja de Kapurthala au lendemain d'un séjour à Chaumont, Miss Punji. À Chaumont, c'est un peu le goût de l'ancien régime que l'on tente de retrouver. La grande Sarah Bernard s'y produit plusieurs fois devant le roi d'Angleterre Édouard VII et celui du Portugal, Don Carlos. C'est l'atmosphère de la recherche du temps perdu où se rencontre aussi le comte de Montesquieu, célèbre dandy. Winnie Singer, héritière des machines à coudre du même nom et épouse du prince de Polignac, ou la femme de lettres, Elisabeth de Gramont. L'écrivain Marcel Proust lui-même fréquente d'ailleurs le salon de Marie de Breuil à Paris. En 1905, un nuage vient gâcher un peu le soleil de la famille Breuil.
Oh non!
Ernest Cronier, le directeur général de la raffinerie, se suicide. Oui, il a joué les fonds de la société en bourse et perdu énormément d'argent. À son mari, qui recommande de revoir le train de vie de la maison, on prête à la princesse cette réponse, sans doute trop belle pour être vraie. « Puisqu'il faut nous restreindre, je décide de supprimer les petits pains au foie gras du goûter. » En 1917, le prince Amédée de Breuil décède d'une pneumonie. Il laisse sa femme Marie seule aux manettes d'une fortune dont elle ne s'est jamais occupée, si ce n'est pour la dépenser. Et la princesse, hélas, ne va pas prendre que de bonnes décisions. Dans les années 1910, la princesse de Breuil est renversée par une danse nouvelle qui cause le scandale, le tango. Bravant les convenances, elle gagne même en 1913 le premier prix d'un concours parisien. À Chaumont, parmi ses invités, se trouve un jeune homme qui l'y a initié. C'est le prince Louis-Ferdinand d'Orléans-Bourbon, infant d'Espagne, cousin du roi Alphonse XIII.
Bien sûr,
veuve désormais, sans doute séduite à l'idée de faire partie de la famille des Bourbons, Marie décide de l'épouser. Ses proches tentent de s'interposer. Alors, les deux tourtereaux s'enfuient en Angleterre où ils se marient à Londres en septembre 1930. Il faut dire que l'union fait grand bruit. La mariée a 73 ans et l'époux seulement 42. Mais la princesse a décidé de vivre sa vie comme elle l'entend et de faire ce qu'elle veut de sa fortune. Son nouvel époux, qu'elle surnomme sa lubrique Petite Majesté, l'aide d'ailleurs bien volontiers à se défaire de son argent. Louis Ferdinand est connu pour ses mœurs scandaleuses, ses aventures homosexuelles avec des voyous de passage dans les quartiers malfamés de la capitale, et pour des petits délits aussi. Il est surtout très drogué. Il est fiché par la police en France et même en Espagne, à tel point que son cousin, le roi Alphonse XIII, décide finalement de le priver de ses titres et de ses privilèges. Adieu l'infant d'Espagne. La nouvelle princesse d'Orléans et Bourbon assume seule les dépenses du ménage et si elle a de la culture et de l'esprit ainsi qu'une solide répartie, elle est bien piètre gestionnaire. Enchaînant les maladresses tout en maintenant son incroyable train de vie, Marie est bientôt contrainte de vendre ses meubles, ses bijoux, avant de devoir se séparer de son hôtel particulier du 10 rue de Solferino, vendu à la Fédération Générale des Fonctionnaires. Le château de Chaumont, lourdement hypothéqué et finalement cédé à l'État 4 ans plus tard. C'est donc dans un appartement modeste de la rue de Grenelle à Paris que s'éteint la princesse le 15 juillet 1943 à l'âge de 85 ans. Et malgré ses revers de fortune, c'est à Chaumont-sur-Loire, près de son premier mari et du château qu'elle avait tant aimé, qu'elle repose désormais pour l'éternité.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Marissé, la princesse de Breuil, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Mention-Rigaud. Bonjour Éric.
Bonjour.
Bonjour Éric Mention-Rigaud. Vous êtes historien, professeur d'histoire sociale et culturelle à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous êtes spécialisé dans l'aristocratie, la grande bourgeoisie et les élites de la Belle Époque. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet, dont « Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique » aux éditions Perrin et « Singulière noblesse » aux éditions Fayard. Il y a quelque chose d'incroyablement romanesque, il faut bien le dire, dans la destinée de Marissé et toutes les péripéties de son existence. Quelle place tient-elle dans l'histoire justement des élites à la Belle Époque?
Une place considérable. Le mariage en 1875 du prince de Breuil avec la fille du roi du sucre, dont la sœur est déjà marquise de Brissac depuis 9 ans, montre l'ouverture des anciennes familles aristocratiques aux héritières patrons d'industrie, des maisons de commerce ou des banques. Ces stratégies de compensation sont nécessaires à la noblesse pour la recomposition des fortunes, écornées par la Révolution et par le Code civil qui a supprimé le droit d'aînesse. Et en fait, ces stratégies de compensation ne sont pas neuves. Sous l'Ancien Régime, déjà, les grandes familles s'allier à des filles de fermiers généraux pour redorer leur blason. Et la grande particularité de la noblesse française, qui est cette conception patrilinéaire de la noblesse qui efface l'ascendance féminine, a toujours favorisé les pragmatismes matrimoniaux et patrimoniaux, et donc les mésalliances.
Mais Éric, cette ascension sociale, elle est quand même un peu unique, vous disiez au début de votre intervention, ou c'est quelque chose qui est dans l'air du temps à l'époque, ce mélange de passer de la haute bourgeoisie à l'aristocratie, c'est une parmi d'autres ou c'est vraiment...
Alors, évidemment, ce n'est pas très fréquent, puisque les grands noms de l'aristocratie française acceptent de donner leur nom uniquement en échange d'une stratégie de compensation, et donc d'une fortune très importante. Mais à la même époque, Vinaretta Saint-Ger, la fille de la machine à coudre, devient princesse de Polignac. Les Rothschild donnent deux de leurs filles à des grands noms de l'aristocratie française, puisque l'une devient princesse de Wagram et l'autre devient duchesse de Grammont. Et puis, à la même époque, commencent à y avoir les mariages américains, dont le plus célèbre est celui de Bonnie de Caslan, qui épouse Anna Gould, la fille du père des chemins de fer américains. Mais encore une fois, ça s'inscrit dans ces stratégies de compensation et des patrimoines qui sont quelque chose d'ancien, Parce que la noblesse française étant une noblesse dont la conception est patrilinéaire, elle efface l'ascendance féminine et donc facilite les mésalliances.
Oui, mais on a du mal, Eric, à se rendre compte de ce que valent en quelque sorte 12 millions de francs
or. C'est ça qui vous intéresse, Stéphane. Non, mais combien ça fait par rapport?
Oui, qu'est-ce que ça représente vraiment?
C'est considérable, c'est très difficile de faire des adaptations, mais en gros, on peut multiplier par 20 pour avoir l'équivalent du franc de 1999. Donc c'est une fortune absolument colossale.
Et dont elle hérite à 14 ans. Ses parents meurent.
Ses parents meurent, elle laisse donc deux filles. Une fille aînée donc, qui se marie assez vite, et puis leur fille de 14 ans, qui est une très riche héritière, certainement très convoitée. Et c'est la famille de Breuil qui réussit à décrocher la timbale.
Alors, Marie-Cé, vous la surnommez la fille du roi du sucre. Ce qui est important dans l'histoire de cette Marie, c'est le château de Chaumont-sur-Loire, Stéphane en a parlé, château qu'elle achète et restaure entièrement pour tenter de retrouver le goût de l'ancien régime à Chaumont un petit peu. C'est-à-dire que, comme Stéphane, c'est quelqu'un qui aimait vivre dans le passé?
Je ne sais pas si elle aimait vivre dans le passé, mais en tout cas, elle aime la fête, elle aime s'amuser, elle est généreuse. Elle aime beaucoup la fantaisie, elle aime s'entourer constamment de gens nouveaux, donc elle reçoit beaucoup d'artistes, elle donne des bals et des fêtes somptueuses, et elle veut renouer avec les traditions d'hospitalité d'Ancien Régime. Donc elle reçoit à demeure une quinzaine de personnes, elle ne supporte pas la solitude, elle ne supporte pas d'ailleurs que ses invités déclinent une invitation. Donc il y a un grand train de vie avec des dîners magnifiques, avec des mets délicieux et un très beau décor de table. Elle aime le luxe oriental, elle est d'ailleurs proche du Maharaja de Kapurthala qui est connu pour son goût du luxe. Elle fait installer à la fois un confort moderne dans le château. Paul-Ernest Sanson a la particularité de maîtriser parfaitement l'architecture d'Ancien Régime, la grande architecture française. Donc c'est un château qui est un château très confortable, agréable pour ses invités, en plus de ça pourvu d'une très abondante domesticité. Elle fait édifier de superbes écuries, qu'on peut d'ailleurs toujours voir et qui sont maintenant transformées en musées. Elle organise donc des fêtes avec un très très grand train de vie, avec une volonté de toujours renouveler et faire en sorte que le séjour soit extrêmement agréable. Donc là, on s'inscrit en effet dans des traditions d'hospitalité d'Ancien Régime.
Les nombreux invités venaient pour les fêtes, plus que pour courir après son argent, d'après ce qu'on croit savoir. Mais est-ce que elle avait une réelle influence politique comme la duchesse d'Uzès, par exemple, à la même époque?
Non, elle n'a pas, à la différence de sa sœur, la marquise de Brissac, qui a d'ailleurs été une bien meilleure gestionnaire, qui, elle, sauvera toute sa fortune, elle alléguera à ses enfants, elle ne mourra pas du tout dans la misère. Sa sœur s'engage dans la philanthropie, elle soutient Pasteur dans ses travaux, et puis surtout a une carrière musicale très importante.
C'est pour ça qu'elle fera d'ailleurs un théâtre au château de Brissac.
Oui. La princesse de Breuil, elle se consacre davantage au plaisir. Elle a en plus de ça fait un mariage qui certes a été un mariage arrangé, mais qui a été un mariage heureux. Elle donne 5 enfants à son mari. Et le prince de Breuil, qui sort de Saint-Cyr et qui est un militaire et qui a renoncé à sa carrière pour se consacrer à la gestion du domaine, sera un bon gestionnaire. Il dépense certes beaucoup, mais il gère très bien le domaine. Il crée un domaine forestier agricole de 2500 hectares. Et le drame, c'est lorsqu'il meurt en 1917, elle se retrouve seule, très mal préparée par 60 années couronnées par la fortune, pour faire front aux difficultés financières qui l'assaillent après la mort de son mari.
Comment vous expliquez justement que personne dans sa famille les préparait à ça, à gérer un petit
surtout
peu
surtout qu'elle était... si elle a 5 enfants, c'est normalement à la mort du prince Amédée, c'était ses enfants qui devaient, à l'époque, c'est ce qui se faisait, les enfants qui héritaient, elle devient douairière.
Elle devient douairière, mais elle a d'abord été orpheline à l'âge de 14 ans. Elle s'est mariée à l'âge de 17 ans, donc elle n'a pas eu une formation lourde, ni par la formation universitaire et scolaire, et ni par ses parents qui l'ont quittée alors qu'elle avait 14 ans. Elle est tombée dans les bras d'un mari avec une certaine insouciance. Elle n'a sans doute pas l'intelligence ou la lucidité de sa sœur, qui, lorsque sa sœur a senti qu'il y avait des problèmes de gestion dans la raffinerie de sucre, a retiré toutes ses billes. Ce qui n'a pas été le cas de la princesse de Breuil, dont la fortune va être largement écornée par la mauvaise gestion de la raffinerie et puis par une mauvaise gestion au quotidien. Donc il y a du coulage partout. Et en plus de ça, les choses vont être aggravées par ce mariage catastrophique en 1931 où elle tombe entre les mains d'un nègre fin. Alors certes, Louis-Ferdinand d'Orléans porte un grand nom. Il est l'arrière-petit-fils du roi Louis-Philippe par son père et le petit-fils de la reine Isabelle, puisque sa mère, l'infante Eulalie, est la sœur d'Alphonse XII. Donc il est arrière-petit-fils du roi des Français et neveu du roi d'Espagne. Donc c'est évidemment un grand nom. Sans doute, ça a dû séduire aussi la princesse de Breuil, qui devenait Altesse royale. Sauf qu'il est, d'abord, il y a la différence d'âge, puisqu'il y a 31 ans qui les séparent. Lui en a 42, elle en a 73. Et surtout, le personnage est peu recommandable, à la fois par ses écarts de conduite et par ses trafics divers auxquels il se livre, en particulier le trafic de drogue. Mais elle se marie avec lui envers et contre tout. La fortune est dilapidée très très vite. Elle était déjà écornée, puisque ça aboutit donc à la vente de l'hôtel particulier des Breuil en 1934, qui est racheté par la CGT. Et en 1938, le château est criblé de dettes. Et il est heureusement racheté par l'État.
Stéphane a dit qu'il avait été déchu de ses titres de noblesse. Mais c'est très rare, ça, j'imagine. Il faut vraiment faire des grosses bêtises pour être déchu de ses titres de noblesse.
Oui, il avait été arrêté de multiples fois à des frontières pour justement ces différents trafics. En plus de ça, il menait une vie de patachon. Et donc, il était en fait banni d'Espagne. En France, personne ne voulait le recevoir. Et tout ça va très très mal finir. C'était la pire alliance que pouvait faire la princesse de Breuil, qui en plus de ça avait été très mal préparée par 60 années de vie d'opulence et d'insouciance. Elle avait appris à se prendre en main plus jeune. Il y avait certainement... Bon, d'abord, elle s'était mariée plus tard, elle avait profité davantage de la présence de ses parents. Sa sœur cadette a été orpheline à 14 ans, orpheline complète. En plus, je pense qu'il y avait en effet beaucoup d'insouciance et une vie facile. Évidemment, lorsque tout s'écroule à partir de 1917, c'est la catastrophe.
Bah merci beaucoup, Éric Mention-Rigaud, de nous avoir conté la vie de Marie Sey. Je rappelle vos livres « Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique » paru aux éditions Perrin et « Singulière noblesse » paru chez Fayard. Je cite également votre dernier ouvrage « La vie des châteaux » paru chez Perrin.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires avec lesquelles elle fait son beurre. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, du beurre, eh ben oui, il va en être question. Des œufs, du fromage aussi, puisque vous nous racontez l'histoire des bofs sous l'occupation.
Du beurre, fromage qui manquait cruellement. Et oui, sous l'occupation, les Français ont eu faim. Et en particulier, naturellement, les populations urbaines. À Paris, enfin dans toutes les grandes villes, tout était rationné. Et le rationnement ne fournissait pas suffisamment de calories. Le rationnement prévu, c'était autour de 1000 et quelques, 1150 calories. Alors que pour un homme de votre constitution, Mathieu, 2005 à 2800, on est nécessaire. Alors évidemment, dans un tel contexte, les épiciers deviennent rois. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mathieu, vous êtes peut-être un peu trop jeune, mais Stéphane, certainement vous en souvenez-vous
j'étais pas en guerre.
Non, pas du tout, de ce roman de Jean Dutour, intitulé justement Beurre au fromage, au bon beurre, ça s'appelait. Beurre au fromage, au bon beurre, ça a été adapté en série télé dans les années 80, avec Roger Hanin et Andrea Ferréol qui campaient un ménage de crémiers épouvantables qui s'enrichissaient sur la misère des autres. Ils étaient exceptionnels dans ce rôle. Ce qui est étonnant, c'est que l'expression même de marché noir est apparue dans le Larousse en 1942. C'est vraiment un mot, une expression créée à cette époque-là. Et la définition de l'époque, 1942, donc petit Larousse, marché clandestin où les biens sont vendus à un prix supérieur à la taxe. Une définition pareille aujourd'hui, ça ne dirait plus grand-chose à grand monde. Alors, qui fait du marché noir, me direz-vous ? Tout le monde, parce qu'on manque de tout. Évidemment, essence, chaussures, cuir, tout est rationné, mais bien sûr, les vivres. Et comme la plupart des produits arrivent de la campagne et qu'il n'y a plus beaucoup d'auto sur les routes, puisqu'il n'y a plus d'essence, il y a un peu de gazogène, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on surveille les gares, parce que c'est par là que transitent les aliments et les produits, mais on ne peut tout de même pas fouiller tout le monde. Alors, il y a le menu fretin, hein. Parfois des gens qui se promènent avec des quantités raisonnables. Par exemple, on trouve sous le charbon dans un train en partance pour la Belgique, 53 kilos de beurre et 7 litres d'alcool. Bon, ça c'est vraiment du menu fretin. Mais dans un train Clermont-Nîmes, 600 personnes voyageaient dans le même train et transportaient chacune 5 kilos de lentilles. Donc en tout, avec ces 600 passagers, ils transportaient à eux tous 3 tonnes de lentilles à bord du train. Il y a très souvent comme ça des groupes de fraudeurs. Une tonne de blé emportée par 50 kilos. Une bande de cyclistes qui passent en Belgique avec 4000 kilos de blé. On en met plein les fontes des vélos. À Clichy, d'astucieux trafiquants cachent 38 kilos de sucre et 40 pains d'épices dans un piano à queue. On met la main sur un lot de pâtes alimentaires, de viande et de charcuterie dans le caveau vide d'un cimetière. Ça fait une bonne cachette. On contrôle une dame et son chien dans le train. Bon, le chien semble un petit peu amorphe, et pour cause, c'est une peluche qui contient 2 kilos de beurre et une bouteille de cognac. Je vous vois bien, Stéphane, avec un chien empaillé, avec des rillettes de poule de tirons gardés cachées dans la peluche.
J'espère qu'on ne revivra pas la guerre.
Non, mais cette ambiance des trains, elle est restituée dans tous ces films qui racontent cette époque. Les gens se baladent dans les trains avec des boîtes à chaussures trouées et des paniers pour y mettre des lapins. On ramène à Paris un lapin, une poule. Et les conversations, c'est ce qu'on a mangé, ce qu'on va manger, ce qu'on mangeait avant-guerre, quels sont les trucs et astuces pour remplacer les denrées manquantes, la chicorée, les topinambures, etc.
C'est fou ce qu'on était occupé.
Mais et vous ne croyez pas si bien dire, Stéphane, parce qu'on s'est rendu compte que dans les conversations, les lettres qui étaient épiées, finalement, évidemment, il était question de dénonciation parfois sourd, mais beaucoup, le principal sujet de préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce que t'as chez toi ? Est-ce que t'as du beurre ? As-tu du sucre ? Je t'envoie du café. Bon. Mais tout ça, c'est les petits trafics du quotidien, mais il y a les pros. Et les pros connaissent parfaitement la France agricole. Ils ont leurs producteurs, ils ont leurs revendeurs. Je cite Henri Amouroux. Ils vont acheter des pommes de terre à 3 francs le kilo dans la Vienne et les revendent 12 à 15 francs le kilo à Paris. Ils vont chercher un jambon dans l'Aube qui paie 100 ou 200 francs et ils le revendent à Lyon 1000 euros. Tous les prix sont perturbés et les salaires ne progressent pas pendant cette période. Alors, inutile de vous dire... Évidemment, la part de l'alimentation est de plus en plus importante dans le salaire. Elle atteint quasiment 71% pour se nourrir. N'imaginez pas que vous allez pouvoir vous faire une petite burrata bufala avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça coûte 1000 à 1500 francs la bouteille, alors que le salaire moyen d'un ouvrier, c'est 1200 francs. Donc les buveurs d'huile d'olive pendant l'occupation, ils ne sont pas légion. Bon, évidemment, du coup, il y a toute une population commerçante, paysanne, assistée d'une foule d'intermédiaires qui vont s'enrichir, plus ou moins directement via le marché noir. Et comment le sait-on ? Parce que pendant la guerre, il n'y a quasiment pas eu de liquidation judiciaire ni de faillite de ces établissements dans une période où tout était rationné. C'est bien qu'il y avait quand même des produits à vendre. Donc évidemment, alors beaucoup de vols, les gens piquent les fruits, piquent les patates, piquent le blé, on vole les colis. En 43, 7500 voleurs de colis dans les gares, parce qu'évidemment, c'est là où on prend au pif un colis, on se dit, je vais peut-être trouver dedans des carottes ou du pâté. Alors, le bon côté, je veux dire, c'est que probablement, évidemment, alors on perdait un peu de poids sans faire d'efforts. L'alcoolisme a beaucoup diminué, évidemment, il n'y a plus rien à picoler, mais ça entraîne de grosses carences alimentaires et le déficit de croissance atteint 7 cm pour les garçons et 11 cm pour les filles de 14 ans, parce que tout a manqué. Donc, le lait, pas de calcium, pas de laitage, pas de fromage, etc., etc. À Paris, il y a un endroit où on voit encore un souvenir du désespoir de ceux qui ne mangeaient pas ce qui leur plaisait. C'est dans le Dôme des Invalides, vous avez dû voir ça, Stéphane. Il y a des prisonniers anglais qui étaient cachés là par la famille Morin. Ils ont caché une quarantaine de pilotes et de parachutistes alliés. Et il y en a un qui a gravé sur le Dôme, Mammy Rabbit. Et en gros, quelque chose, arrête de nous donner du lapin, on n'en peut plus.
Merci beaucoup Clémentine.
Merci Clémentine, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Le quiz avec des questions fortes intéressante aujourd'hui sera question de lavement.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Souvent, le matin, avant de partir au travail, en lassant ses Weston, Stéphane Bern se dit à lui-même
« J'ai reçu l'amour en héritage. »
L'amour, c'est déjà bien. Mais s'il avait pu recevoir aussi en héritage quelques neurones, ça aurait pas été du luxe. Jouons à Bern to be alive. Stéphane. Première
c'est très
question.
Insultant, voyez-vous. Mais pour le vous plaisir d'entendre la voix de Nana Mouskouri.
Je suis que ça vous ferait plaisir
oui,
d'entendre Nana.
Très plaisir, oui.
Je suis sûr que vous écoutez parfois cette petite chanson pour vous donner
oui,
du baume au cœur.
Tout Nana, vous savez.
Vous écoutez tout Nana. Techniquement, c'est pas possible. Il y a tellement de chansons. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Nous sommes entre personnes cultivées. Vous deux, grâce à vos connaissances, et moi, grâce à ma fiche. Vous savez que le clistère est le nom ancien donné au lavement.
Oui.
Ça désigne autant l'objet que la pratique. Selon Pline l'Ancien, L'idée est venue aux hommes du lavement en observant les oiseaux. Vrai ou faux ?
Parce que les oiseaux se pratiquent le clistère.
Je ne vais pas vous donner d'éléments de réponse. C'est ma question. Est-ce que c'est en observant les oiseaux qu'on a inventé la technique du lavement ?
Ça me dit vaguement quelque chose pourtant.
Moi j'observe un peu les oiseaux, j'ai rarement vu avec un des lavements. Des lavements d'oiseaux, voyez-vous. Par contre, des fientes, j'en trouve.
Ou c'est peut-être plutôt la façon de les alimenter que de les vider, non ?
Je ne peux pas vous aider, c'est une question. Est-ce que c'est en observant les oiseaux que l'homme a eu l'idée d'inventer le lavement ? Oui ou non ?
Non, je dirais non, je ne vois pas pourquoi.
Vous avez perdu.
La nature est étonnante, Stéphane. En regardant les ibis, les échassiers à long cou, ils se servaient de leur bec recourbé pour s'injecter de l'eau de mer dans le rectum. En effet, les volatiles ingurgitaient du sable qui les constipait considérablement. Ils ont trouvé eux-mêmes un remède efficace, fascinant
et poétique nature.
On a parfois reproché, Clémentine, c'est la deuxième question, on a parfois reproché à Vlad l'Empaleur d'être un brin soupolé. Mais ce qu'on oublie aussi de préciser, c'est que les boyards de Targoviste en Roumanie n'avaient pas été très cool avec son frère aîné. Ils l'avaient tué en l'empalant, mais par la bouche. Vrai ou faux ?
Ah, c'est intéressant, cette intéressante variante de l'empalement. Alors, l'empaler par la... L'emboucher, autrement dit.
Il l'avait pris par les pieds, puis... Et par...
Le pal,
c'est un bar... intéressant.
Le barbecue, c'est ça, c'est de la barbecue. C'est ça la signification du barbecue.
Quoi ?
C'est de la barbe au cul, si vous voulez. Bien sûr.
Vous saviez pas ça.
Embrocher.
Oui, voilà. Bon, écoutez, comme
le
ça, vous avez appris.
Par exemple, ça vient
je ne savais pas.
De la barbe au cul.
J'ai appris. J'ai appris quelque chose. Oui. Peut-être pour nous donner un point supplémentaire.
Moi, je dis qu'on est empalé, mais naturellement. Parce que si je regarde les différentes tortures, des Russes dans Viking avec Ragnar Lodbrok, ils
sont
des
trucs. C'est vraiment votre référence historique, cette série Viking.
C'est ma référence, c'est ma seule culture. Vient de là, je vous le dis tout de suite. Donc, je dis oui, bien sûr.
Vous avez perdu.
Quel manque de bol. C'est faux. On lui avait juste crevé les yeux et ensuite on l'avait enterré vivant. Les boyards désignent les aristocrates orthodoxes non grecs de l'Europe de l'Est, je le précise pour ceux qui pensaient qu'on parlait de Fort
Boyard. Ils auraient pu l'empaler par la bouche. Hein. Qui peut le plus, peut le moins, franchement.
Des propos qui n'engagent que vous. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. À une époque bénie, on pratiquait l'ordalie. Des épreuves qui, au Moyen-Âge, consistaient à vérifier si Dieu permettait que vous guérissiez à des expériences telles que prendre un objet dans une marmite d'eau bouillante ou porter une barre métallique chauffée au fer.
Ça a donné une expression, c'est mettre sa main au feu.
Oui, mais ce n'est pas ma question.
D'accord, mais je vous le dis.
Pas ma question. Et si vous essayez de gagner des points supplémentaires, sachez que je trouve ça un petit peu limite. Si vous guérissez, vous étiez considéré comme innocent. C'est le principe de l'ordalie. L'ordalie, pour les prêtres, c'était d'être gavé à l'hostie. Si on s'étouffait, on était coupable. Vrai ou faux ?
Ah, alors là.
Alors voyez-vous, Stéphane, je trouverais étonnant que l'on fasse aussi peu de cas du corps du Christ. On n'aurait pas été utilisé une hostie pour gaver un prêtre. Vraiment, c'était tout à fait iconoclaste, c'est le cas de le dire.
Oui. Mais l'expression j'en mettrai ma main au feu, ça vient de l'ordalie. Je dirais non.
Ça, c'est bien, j'ai bien compris que vous vouliez ce petit point.
Oui, je veux ce petit point bonus. Mais je ne pense pas qu'on jouait avec le corps du Christ.
Mon Dieu, je n'espère pas non plus, Stéphane. On va écouter la réponse, j'espère pas. J'espère je serais choqué personnellement.
Vous avez encore perdu.
Tiens, les amis, tu parles. Effectivement, on gavait les prêtres à l'hostie, c'était leur ordalie à eux. En 868, un concile propose de remplacer les hosties par du pain et du fromage quand c'était un prêtre qui était accusé.
Mais bien sûr.
Cette pratique donnera naissance à l'expression rester en travers de la gorge.
Ah bon. Écoutez, excusez.
Réjouissez-vous.
Moi, je pense que très vite, il a dû paraître évident que l'hostie étant un corps consacré, on ne pouvait pas l'utiliser pour bourrer un moine comme un canon. Bon,
mais le raisonnement était bon, la réponse était mauvaise. Bon, vous voulez que je vous dise, vous n'êtes pas réécrit l'histoire.
Bon, d'accord, dans tact.
Bah déjà, vous avez appris un mot, ordalie, c'est très bien.
Ordalie et barbecue, c'est un grand jour mais pour vous, Mathieu.
Oui, alors attention, je vous rappelle que vous disposez chacun d'un point bonus virtuel. Je décidais au dernier moment à qui le donner.
Ah oui, bah voyons.
Donc essayez d'être gentil avec l'animateur de ce jeu. Question numéro 4 pour vous, Clément. En France, on a toujours eu beaucoup de fromage et beaucoup d'impôts. Au XVIIe siècle, quand on achetait un jeu de cartes, on devait payer une taxe. Vrai ou faux ?
Oui, c'est vrai.
Êtes sûr de vous, Clémentine ?
Oui.
Vous avez gagné !
C'est une bonne réponse. 2 sous et 6 deniers par jeu de cartes. Un tampon était alors mis sur le paquet pour prouver qu'on avait payé. 1-0 pour vous, Clémentine. Normalement,
gagné,
vous l'emportez,
bah.
Mais non, car le point bonus a été donné à Stéphane qui nous a livré l'origine d'une expression. Tout à l'heure, c'est magnifique, c'est une égalité, c'est la question simple.
Moi, j'avais dit barbecue, alors.
Oui, oui, mais vous vous êtes moqué de moi. Vous avez dit que j'avais appris le mot hors d'Ali que je connaissais depuis au moins 15 jours. Alors, question numéro 5, pour vous deux. Trois propositions, c'est une question de rapidité. En 1969, sur le réseau CBS aux États-Unis, se déroule un événement historique qui va marquer toute une génération. C'est la toute première diffusion de Scooby-Doo, Where Are You ? Comment ceux qui ont créé Scooby-Doo ont eu l'idée de l'appeler Scooby-Doo ? Trois propositions. 1. C'était la mode de l'accessoire du Scooby-Doo, tout bêtement. 2. Scooby-Doo sont les premières syllabes des créateurs du personnage. Ou, possibilité numéro 3, c'est la fin d'une chanson de Frank Sinatra.
2.
Alors moi je dis c'est soit 1, soit 3.
Non mais c'est pas soit 1, soit 3, alors là c'est n'importe
j'ai
quoi.
J'ai d'abord dit 3,
non,
je
vous avez
signale,
dit 3.
C'est à cause de
vous
la chanson.
Vous avez dit 3. Qui a remporté ce quiz d'après vous Stéphane? Ouais, vous pensez avoir la bonne réponse avec le 2? Vous avez dit c'est les initiales du créateur,
oui,
du personnage Scooby-Doo.
Oui, ça se fait souvent, oui.
Écoutons la réponse
en musique.
Alors, moi qui suis quand même un bon spécialiste de l'œuvre de Sinatra, il ne dit pas Scooby-Doo-Bidoo,
non,
Doobie-Doobie-Doo. Donc que les mecs aient pensé à intituler leur personnage Scooby-Doo-Bidoo, peut-être...
Scooby-Doo-Bidoo.
Voilà, Scooby-Doo-Bidoo, c'est un scoop.
J'adore les Scooby-Doo.
C'est un
scoop. Ah, mais j'ai gagné.
En revanche, Sacha Distel a vraiment chanté Scooby-Doo.
Ah oui. Oui, mais on ne parlait pas de Sacha Distel, mais
c'est dommage.
Il y a Doobie-Doobie-Doo et Scooby-Doo, qui ne sont pas les mêmes chansons.
Ça, on est dans les fondements de l'histoire.
Les fondements de l'histoire, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui,
vraiment,
presque
oui.
autant que moi. Bravo Clémentine, vous
bravo,
remportez
Clémentine.
Le quiz.
C'est une belle victoire.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez historiquement votre 2 heures de gai savoir en compagnie d'un garçon qui a rarement été aussi gai qu'aujourd'hui. C'est la première fois qu'il voit autant d'argent.
Oui Stéphane, c'est à peu près ça. Si on jette évidemment un voile pudique sur cette garden party, vous m'aviez invité chez vous à Tiron Gardé, c'est la quasi première fois, oui, que je vois autant d'argent réuni au même endroit.
Et pour cause Mathieu, puisque c'est ce qui réunit nos trois personnages du jour.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas.
Mais comme David, ils possèdent des thunes, ils sont à l'aise financièrement car ils ont hérité de fortunes colossales. Après Marie-Cel, héritière de la sucrerie que l'on connaît encore aujourd'hui, vous savez, Béguincel, bien sûr. Je vous raconte Vincent Astor, héritier de l'une des plus riches dynasties des États-Unis et ami avec Franklin Roosevelt aussi. Enfin, plus proche de nous, Mathieu, mais mort également, et c'est regrettable, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de celui qui a longtemps été votre voisin d'enfance à Prégny en Suisse.
Oui, Benjamin de Rothschild, pour une fois, pas besoin d'inventer, c'est vrai. Ma maison jouxtait la sienne, enfin plus précisément la maison des gardiens du château où il habitait. Moi, je faisais du tracteur à pédales dans la contre-allée, lui de la Ferrari. Comme quoi, vous voyez, même en Suisse, il y a de grandes inégalités sociales.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs, David Castel-Lopez, qui nous raconte les origines du Minitel.
Exactement, les origines du Minitel et les origines de sa disparition aussi, puisqu'il n'en a plus trop de Minitel, hein, beaucoup moins qu'avant.
Olivier Poul, c'est avec nous, hein, le wasabi, lui, est toujours vivant.
Oui, mais si, comme Mathieu Noël, vous pensez que le wasabi, c'est cette petite pâte verte qu'on vous distribue gracieusement quand vous allez dans les restaurants japonais, je peux vous dire, je vais lancer une bombe tout à l'heure.
Voilà, scandale en vue, polémique et débat tout à l'heure. Enfin, on savait déjà qu'il possédait de la thune, mais David Castello-Lopez possède surtout de la chatte. C'est ce qu'on constate chaque jour à la fin de cette émission au moment du quiz, où après avoir lancé un chiffre au hasard, on lui indique qu'il a remporté la lutte finale. Le vent tournera-t-il un jour? Nous le saurons aux alentours de 6h-10. Mais pour l'heure, découvrons notre deuxième heureux héritier du jour. Dans la famille Astor, l'une des dynasties les plus riches des États-Unis, l'or fait partie de la vie et de la mort aussi. Quand papa Astor tombe à l'eau, c'est son fils qui récupère la valise pleine de grosses coupures. Stéphane Bern nous raconte Vincent Astor.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il est 23h40, ce 14 avril 1912, au large de Terre-Neuve, dans l'Atlantique Nord, lorsque la coque d'un paquebot flambant neuf heurte à tribord un iceberg. En moins de 3 heures, le Titanic s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. À son bord, le richissime John Jacob Astor, quatrième du nom, ne parvient pas à se hisser à bord d'un canot de sauvetage. En disparaissant, il laisse une fortune colossale à son fils Vincent, 21 ans seulement. Vincent Astor n'est donc pas ce qu'on peut appeler un self-made man. Il fait pourtant partie lui aussi de ces personnages dont l'Amérique raffole. La famille Astor est presque un mythe. Lorsque le petit héritier voit le jour le 15 novembre 1891, cela fait près d'un siècle que la richesse du clan est établie. Le premier Astor, prénommé John Jacob, comme beaucoup de ses descendants après lui, a débarqué à New York en 1783. Il est allemand et vient tenter sa chance en Amérique. Elle lui sourit. En quelques années, le travailleur acharné fait fortune dans le commerce international de fourrures et dans l'immobilier. Lorsqu'il disparaît en 1848, John Jacob a amassé quelques centaines de millions de dollars. Il est l'un des premiers, peut-être le tout premier, multimillionnaire de l'histoire des États-Unis. Il est aussi le père d'une longue lignée d'hommes d'affaires et de politiciens qui va régner sur Manhattan pendant des décennies. L'arbre généalogique familial nous mène jusqu'à Caroline Astor. Elle est la personnalité la plus importante de la fin du 19e siècle à New York, une véritable impératrice qui fait la pluie et le beau temps sur la haute société new-yorkaise de l'âge d'or, la période de prospérité qui suit la guerre de sécession. Elle est l'instigatrice des 400, une liste des 400 personnalités les plus en vue de Manhattan, établie, selon la légende, parce que la salle de bal de sa maison de villégiature de Rhode Island ne peut contenir que ce nombre d'invités, oui, seulement 400. Son fils, John Jacob IV, est le père de Vincent. Hélas, argent et notoriété ne suffisent pas au bonheur. Dans le manoir en grès brun de ses parents, situé à l'angle de la 5e avenue et de la 34e rue, aujourd'hui emplacement de l'Empire State Building, le petit garçon se sent seul et abandonné. Sa mère n'est pas tendre et ses parents se séparent bientôt. Vincent est élevé par son père dans un cadre strict, entouré de précepteurs et de médecins qui veillent sur sa santé fragile. À la fin de l'adolescence, Vincent Astor entre à Harvard pour suivre ses études. C'est là, alors qu'il est encore étudiant, que le drame du Titanic le frappe de plein fouet. Le corps de son père est repêché une semaine après le naufrage, flottant sur les débris du bateau. Dans sa poche, on retrouve sa montre en or, protégée par le gilet de sauvetage. En même temps que ce bijou de famille qu'il portera toute sa vie sur lui, Vincent hérite donc d'une fortune colossale. Il quitte l'université et prend la tête du business familial. Pourtant, le jeune Astor ne ressemble pas aux membres de sa famille. Il prête une oreille plus attentive aux considérations sociologiques de son temps. Pour se démarquer, Vincent décide d'ailleurs à ce moment-là d'abandonner son premier prénom, William, porté par plusieurs de ses aïeux, et d'utiliser son second nom de baptême. La famille Astor a fait fortune en achetant de la terre à Manhattan et en la louant pour des périodes de 99 ans. Dans ces conditions, les propriétaires d'immeubles ne s'occupent pas toujours de maintenir leurs biens dans de bonnes conditions et quelques-uns des pires taudis de la ville sont connus sous le nom d'appartements Astor. Vincent est choqué des conditions de vie des habitants de ces logements insalubres et décide de remédier à ce problème en résiliant les baux ou en lançant des programmes de rénovation. Pour ses employés, Astor augmente les salaires, coopère avec les syndicats, il donne aussi des terres pour la construction de parcs et d'hôpitaux. En 1932, l'homme d'affaires soutient la candidature du démocrate Franklin Roosevelt, l'un de ses rares amis. Privé de contact pendant sa prime enfance, négligé par sa mère, le jeune homme est souvent décrit comme colérique et maladroit par les membres de la haute société dont il est issu. Moins soucieux de l'étiquette, l'héritier n'hésite pas à rompre encore davantage avec les traditions familiales en conviant dans sa propriété de l'Hudson River des gens ordinaires, très éloignés de la haute société. Vincent Astor n'en vit pas moins comme le millionnaire qu'il est. Passionné de vitesse, il passe son temps libre entre les automobiles, les avions et un énorme yacht de luxe de 80 mètres de long. En 1914, Astor se marie une première fois. Après deux divorces, il convole en octobre 1953 avec Brooke Russell Marshall, fille d'un général commandant des Marines. Probablement stérile, le businessman n'a aucun enfant de ses alliances successives. À 67 ans, fragilisé par un trop vif amour de la boisson, il succombe à une crise cardiaque dans son appartement new-yorkais. Brooke Astor hérite à son tour de plusieurs dizaines de millions de dollars et de la présidence de la Fondation Astor, une mission philanthropique créée par son mari. Immédiatement, sa fortune attire les convoitises. Le demi-frère de Vincent, d'abord, né quelques mois après la mort de leur père sur le Titanic, accuse l'héritière d'avoir profité de la faiblesse de son mari pour lui faire modifier son testament. L'affaire se solde à l'amiable et pendant des années, la veuve Astor continue à vivre confortablement au sein de la bonne société new-yorkaise, œuvrant à la construction d'écoles, à la rénovation de bibliothèques ou comme mécène du Metropolitan Museum. Mais à la fin de sa vie, c'est son propre fils Anthony, né d'un précédent mariage, qui tente de s'attribuer le magot. Privée de ses revenus, la veuve vit presque dans le dénuement, dans un luxueux appartement de New York. Condamné pour captation d'héritage, Anthony est finalement emprisonné. Avec Brooke, s'éteignent en 2007 les batailles autour de l'une des plus grandes fortunes d'Amérique.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Vincent Astor, nous sommes avec un incontournable lorsqu'il s'agit de parler de l'histoire des États-Unis. Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Oui, bonjour cher André Caspi. Vous êtes l'auteur du livre Franklin D. Roosevelt, paru aux éditions Perrin. Quelle place occupent les Astor dans l'histoire des grandes fortunes et des grandes familles américaines du XXe siècle ? C'est une toute première place, non ?
Bah, évidemment, parce que, vous savez, Franklin Roosevelt n'était pas né dans les milieux les plus pauvres des États-Unis, au contraire. Il appartenait à une grande famille, ses origines remontent au XVIIe siècle, donc il avait beaucoup de relations dans tous ces milieux-là. Et il est évident que les Astor faisaient partie de ces relations, puisque je pense qu'ils ont été en contact très régulièrement les uns avec les autres, aussi bien pendant la jeunesse de Franklin Roosevelt que pendant sa présidence. Ce qui veut donc dire que les Astor ont joué un rôle particulier, mais quand on dit les Astor, c'est Vincent Astor qu'il faut citer.
Mmh. Stéphane racontait dans son portrait que lorsque Vincent Astor hérite de la fortune colossale de son père, il se lance dans de grands travaux humanistes et il met aux normes des appartements loués par sa famille, il augmente les salaires de ses employés, il travaille avec des syndicats. D'où lui vient cette fibre philanthropique, si on peut dire ? Il est le premier de la famille à avoir cette vision-là ?
Alors, pourquoi est-ce que Vincent Astor se lance là-dessus ? C'est parce qu'il fait partie de cette génération qui hérite et qui considère que c'est un devoir moral de faire partager, en somme, une partie de sa fortune avec le reste de la population.
Vincent Astor était un ami du président Franklin Delano Roosevelt. Dans votre livre, vous écrivez que Roosevelt passait régulièrement ses vacances sur le yacht de Vincent Astor. Au fond, quel était le lien qui les unissait ? C'était une amitié, mais réelle ou intéressée ou...
Non, je pense que c'était certainement un peu des deux. Mais enfin, disons que l'amitié était plus forte que l'intérêt que pouvait avoir Vincent Astor à être auprès de Franklin Roosevelt. Parce que vous savez, au fond, Franklin Roosevelt, tant qu'il n'avait pas été élu à la présidence, c'est-à-dire en 1932, il devient président en mars 1933, Franklin Roosevelt était un homme politique parmi d'autres. Et d'un autre côté, comme il a été frappé par la poliomyélite en 1921, il est évident qu'on pouvait douter de la suite de sa carrière. L'amitié, en somme, a survécu aux différents moments de la vie. Je crois que c'est une belle amitié quand même, hein. Il ne faut pas la sous-estimer.
Moi, avant de vous entendre, André Caspi, je m'imaginais peut-être bêtement que les grandes fortunes américaines de l'époque étaient plutôt critiques à l'égard de la politique de Roosevelt. Vous nous dites plutôt l'inverse, en fait. Vous nous dites que Vincent Astor était un parmi d'autres qui s'inscrivait dans un courant de pensée qui n'était pas, c'était pas clivant, quoi, de soutenir Roosevelt.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que Roosevelt, une fois qu'il a été élu à la présidence, a pratiqué une politique sociale. Mais d'un autre côté, ça n'était pas un révolutionnaire. Et ce qu'il souhaitait avant tout, c'était de maintenir le capitalisme à l'américaine, mais en l'aménageant, en tenant compte des nécessités de l'époque. Et les nécessités de l'époque, c'était de combattre le chômage. Bon, mais ça veut dire que pour Franklin Roosevelt, être ami avec des grandes fortunes, ça n'était pas contradictoire avec sa politique. Et quant aux grandes fortunes elles-mêmes, bon, elles pouvaient en effet craindre que Roosevelt glisse un peu plus vers la gauche et devienne un peu plus démocrate, mais cette amitié entre Astor et Roosevelt n'avait rien d'extraordinaire.
Vincent Astor a également fait un peu de renseignements pour le gouvernement de Roosevelt, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale. De quelle manière il s'était impliqué ?
Il faut quand même mettre les choses dans une juste perspective. Vincent Astor n'est pas devenu un agent, un espion qui partait à l'aventure pour ramener des informations. Non, c'est pas ça. Il avait installé son bureau dans le port de New York. Et là, il recevait des informations sur les différents mouvements qui pouvaient se manifester, non pas dans le monde, mais en tout cas sur les mers et sur les océans. Et de ce fait-là, il transmettait ces informations à Franklin Roosevelt. Cela dit, il ne faut pas non plus en faire un super espion, ça n'était pas OSS 117, il restait malgré tout une sorte d'espion, si l'on peut dire, amateur.
Stéphane le racontait tout à l'heure, le père de Vincent Astor, John Jacob Astor, était l'homme le plus riche à bord du Titanic. Il fait partie de ces grandes fortunes qui ont péri dans le naufrage du paquebot. Quel impact a eu cette catastrophe du Titanic dans les grandes familles aristocratiques du début du XXe siècle ?
Alors, le Titanic a en effet tenu une place essentielle dans l'histoire du monde, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. C'est quand même non seulement par le cinéma, mais aussi par la légende que cela représentait, c'est-à-dire ces grandes fortunes qui étaient installées sur le Titanic. Par exemple, Astor bénéficiait de deux cabines. Il avait deux cabines et il avait, luxe suprême, une salle de bain personnelle sur le Titanic. C'est ce qui veut donc dire que c'était un personnage de très grande envergure et de très grande fortune. Et le fait même que l'on ait retrouvé son corps grâce à la montre en or qu'il portait sous son gilet, montre bien qu'il était quand même le représentant d'une catégorie sociale aux États-Unis qui est marquée par ses grandes fortunes.
Justement, la famille Astor, elle a commercé, elle a construit, elle a financé. Au fond, ils ont aidé à construire l'Amérique.
Oui, ils ont aidé surtout à construire des logements. Hein. C'est-à-dire qu'à New York, beaucoup de logements ont été construits avec l'argent des Astor parce que c'était un investissement très rentable. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que New York a été littéralement colonisée par les Astor qui en ont tiré profit. C'est-à-dire qu'au fond, c'était une fortune immobilière qui n'avait pas uniquement des buts sociaux, car les logements construits par les Astor n'étaient pas tous des logements de luxe, loin de là. Donc ça veut dire que les Astor ont profité de l'immigration qui est arrivée à New York, des immigrants qui cherchaient à se loger et qui le trouvaient par l'intermédiaire des Astor qui, une fois de plus, en tiraient de très gros profits. Donc je crois qu'il faut quand même un peu nuancer et considérer que les Astor n'ont pas été, des promoteurs de la vie sociale, mais c'était au fond, dans un certain sens, c'était des profiteurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Même chose, vous avez bien raison de le rappeler. Merci beaucoup André Caspi, je rappelle votre livre Franklin D. Roosevelt, sorti aux éditions Perrin. Merci.
Merci à vous.
Et merci, au revoir.
Au revoir.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces heureux héritiers qui possédaient des thunes, qui étaient à l'aise financièrement. Après Marisset et Vincent Astor, vous brossez, Mathieu, le portrait d'un héritier plus proche de nous, mais dont le destin est hélas un peu moins heureux, votre voisin de Prégny-Chambézy, Benjamin de Rothschild.
Et oui Stéphane, comme disait le philosophe, trop courte est la vie pour l'occuper à courir une fortune qui de la mort ne nous sauvera pas.
Spinoza.
Non, Maître Yoda, l'attaque des clous. C'est dans le crachin lugubre de l'hiver suisse que commence mon histoire aujourd'hui. Nous sommes le 18 janvier 2021, un corbillard avance lentement le long de l'allée centrale du château de Prégny, exactement à 220 mètres de la maison où j'ai grandi et qui ne faisait pas le quart de la maison du gardien de ce château. À l'intérieur, Benjamin de Rothschild, héritier de la banque Edmond de Rothschild, avance vers sa dernière demeure, au cimetière de Verrier. Tous ses amis sont là, pas si nombreux finalement, les plus importants, dirons-nous, venus lui rendre un ultime hommage, comme Stéphane Bern qui avait composé une petite chanson d'adieu pour l'occasion.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ils sont à l'aise financièrement, ils sont à l'aise financièrement. Je possède des thunes.
Trois jours plus tôt, on sait d'où ça vient cette idée que vous avez eue, David. Trois jours plus tôt, Benjamin de Rothschild était emporté par une crise cardiaque foudroyante à seulement 57 ans. C'est terrible de perdre un ami si jeune et surtout un ami si riche, déclarera Stéphane à l'issue de la cérémonie.
Non, je suis triste pour consomme.
Riche, c'est vrai que Benjamin l'était de manière presque indécente. Par contraste, en tout cas, quand on songe au dénuement dans lequel j'ai personnellement grandi, à 220 mètres de lui. Au dernier classement des grandes fortunes françaises de Challenge, Benjamin de Rothschild pointait à la 22e place avec un patrimoine estimé à 4,3 milliards d'euros. Pourtant, aurions-nous échangé sa vie contre la nôtre ?
Grave !
Non, pas forcément, David, pas forcément, bien sûr. Tant d'argent, ça aide. Benjamin n'était pas le genre de type à hésiter au moment de payer un supplément bagage sur le site d'Air France ou une livraison express à 8,99 euros sur Amazon. Mais il n'avait pas ce que j'appelle nos petits bonheurs de pauvres. Vous savez, ce moment où, en consultant l'appli bancaire, vous découvrez une petite ligne verte sur votre compte courant, noyée parmi tant de lignes rouges. Oh, la Sécu vient de me rembourser 11,80 euros. J'avais complètement oublié cette consultation. Et ça vous fait votre journée. Vous oubliez vos agios et vous filez claquer vos 11,80 euros au PMU. Grisé par cette rentrée d'argent inespérée, ce sentiment divin d'être soudain riche sans avoir eu quoi que ce soit à faire. Eh bien, ce genre de petit bonheur, Benjamin Rothschild ne l'aura jamais connu. Trop de lignes vertes sur son compte en banque. La vie, cette catin, l'aura privé de ses joies simples en le faisant naître dans une des familles les plus riches d'Europe. Comment ne pas s'ennuyer quand on a tout et qu'on porte sur ses épaules le poids d'un empire ? Alors, très jeune, Benjamin se distingue. Il sera banquier, oui, parce qu'il ne va pas non plus faire un BEP chaudronnerie, mais pas banquier comme les autres. Non, un banquier rock'n'roll. Son parler cash détonne dans le milieu guindé de la finance. La presse va même jusqu'à le décrire comme le Joe Star de l'asset management. C'est un peu excessif quand même, hein, il est rock, ok, mais pas hard rock non plus, plutôt. Voilà. Parmi les excentricités du Joe Star de l'asset management, il lui arrive de tutoyer ses cousins, waouh, de boire son jus d'orange directement à la paille, ouh. Et alors ça, accrochez-vous, c'est complètement trash dingo, de porter deux montres, une à chaque poignet, pour avoir l'heure de Genève et celle de Paris. Oh, le mec est nos limites.
Ah bon, c'est pas la même.
C'est, en plus, c'est la même, c'est pour ça. C'était toute l'ironie du truc. Il était complètement rock. Il avait une montre, le faisceau de Genève et le faisceau de Paris. Un déglingo de la teuté, mais un déglingo qui pèse. La valeur des actifs gérés par le groupe Rothschild en 2020 s'élève à 173 milliards de francs suisses, gérés par 2600 collaborateurs à travers le monde. Un empire qu'il a fait fructifier, on ne peut pas lui enlever, mais dont il a hérité en 97 à la mort de son papa Edmond, lui aussi victime d'une crise cardiaque. Mais n'allez pas croire pour autant que Benjamin n'a connu que l'opulence de son château genevois. Non, il est né le 30 juillet 1963 dans la Chaude, la terrible, la malfamée Neuilly-sur-Seine. Nadine et Edmond Rothschild n'auront qu'un enfant, en tout cas officiellement, je spoil un peu, lui, Benjamin. Sa maman, oh, vous la connaissez forcément, c'est Nadine, ancienne actrice dont Edmond tombe éperdument amoureux dans les années 50 et qui deviendra la papesse du savoir-vivre. Quand vous êtes à table, avant d'attaquer votre assiette, qu'est-ce que vous dites aux autres convives, David ?
Pas bon appétit.
Mais si, si vous dites bon appétit dans mon texte. Vous dites bon appétit. Oh, ben non, partez. Comme quoi, vous vous connaissez, vous, David.
Chez David, c'est plutôt bon courage.
Bon courage.
Et non, oui, effectivement, on dit pas bon appétit, vous avez raison. Aucune référence au transit de ce qui se passe à l'intérieur.
Ce qui se passe dans notre cœur.
Exactement. Tout ça, on l'a appris grâce au manuel de Nadine. Quant à Edmond, le papa, il est décrit comme un mentor inflexible. Du coup, Benjamin, par esprit de rébellion, sera un ado un brin turbulent. Étude à l'université de Pepperdine, en Californie, où il pourra enfin bouffer tranquille sans se soucier de savoir si le couteau à beurre se replace sur ou à côté du beurrier. Puis, début dans la finance, où il cherche à se démarquer de Papounet en fondant sa propre compagnie, présentée comme révolutionnaire dans le domaine des dérivés, des produits financiers complexes. À la mort du dit Papounet, en 97, Benji perd un père, si j'ose dire, mais gagne deux choses en échange, sa banque et une frangine. Oui, il découvre l'existence d'une demi-sœur, Camilla, fruit d'une relation extra-conjugale entre Edmond et sa maîtresse. Merci papa, j'aurais préféré ta Rolex. Benjamin prend donc les rênes de la compagnie financière Edmond Rothschild et devient donc dinguement riche. Benjamin de Rothschild est peut-être un peu rock, mais il se forge rapidement une très bonne réputation. Les résultats sont là, on le dit visionnaire. Sa devise, avoir raison avant les autres, c'est avoir tort. Le groupe cartonne, pourtant il n'échappe pas à ce qu'on pourrait appeler le complexe de l'héritier. Benji disait: à partir du moment où vous héritez de quelque chose, vous n'avez jamais de légitimité. Jamais. Vous pouvez sortir les meilleurs résultats du monde, vous ne serez jamais 100% légitime. Et puis, je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Mon boulot est de faire en sorte que mes filles reçoivent plus que ce que j'ai reçu de mon père, l'inflation comprise. Le mec, il oublie jamais. Dans la vie, Benji est un charmeur, un homme surprenant, jamais ennuyeux, qui se passionne pour mille et une choses. Parmi ses hobbies, on citera par ordre de bizarrerie décroissante l'artisanat. Un ami de longue date raconte: Benjamin passait du temps avec des artisans, des mécaniciens et des marins-pêcheurs qui l'accompagnaient sur leur embarcation. Il était sensible aux gens qui ont l'amour de leur métier. Ces dernières années, il avait même investi dans une ferme fromagère produisant le dernier brie de Meaux AOC fermier. Vous le savez peut-être, Olivier. Oui. Investir dans une ferme, caresser les bêtes, n'était pas le seul hobby de Benjamin de Rothschild, qui, lorsqu'il ne caressait pas les bêtes, aimait bien aussi les buter. Il ne s'en cache pas, sa passion première, son grand amour, c'est la chasse aux animaux rares dans des pays lointains, toujours accompagné de son taxidermiste qui le suit dans chacun de ses safaris. Une passion qu'il affichait fièrement dans les salons de son château. Trophées de chasse, animaux empaillés, pattes d'éléphant sectionnées à la bonne hauteur, dit-il, pour poser au mieux son verre de whisky. Vous voyez l'idée, fallait y penser. Oui, fréquenter Benjamin de Rothschild, c'était réaliser que le savoir-vivre des hommes n'allait pas sans le savoir-mourir des animaux. Parmi les autres hobbies secondaires de Benji, on citera les vignobles, la Formule 1, la voile. C'était quelqu'un qui pouvait s'acheter un trimaran à 12 millions comme nous, un masque snorkeling Décathlon. Et ce qui est terrible, c'est que je ne suis pas sûr que ça lui procurait plus d'excitation. En 93, il rencontre Ariane, un amour unanimement décrit comme réciproque et sincère. Le couple va travailler main dans la main, à tel point que durant les 5 dernières années, Benji se met en retrait des affaires, laissant Ariane quasiment seule aux manettes. Ensemble, ils ont 4 filles, futures héritières du groupe et d'une bonne cinquantaine de têtes de chevreuil empaillées. Une vie de famille épanouie et harmonieuse, ou presque. Car depuis le début des années 2010, rien n'allait plus entre Benji et sa maman Nadine. La raison, tout le monde l'ignore, ou ceux qui savent ne parlent pas. Tous s'accordent en revanche pour évoquer un immense gâchis qui n'aura jamais eu le temps d'être réparé. On le disait visionnaire, c'est tristement le cas. Benjamin déclarait au Point en 2014 « De toute façon, avec ce que je fume, je ne risque pas de mourir très vieux ». Benjamin avait vu juste 7 ans plus tard, paf, terminus, direction le cimetière de Verrier, où résonne encore l'écho émouvant d'une rengaine interprétée par un ami.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ils sont à l'aise financièrement.
Merci Mathieu, c'était bon, je sais pas à combien de pourcents de vrai, mais
en tout cas, c'est vrai que c'était mon voisin.
C'était votre voisin, oui. Mais j'ai senti quand même dans votre récit un peu de rancœur d'avoir été
grave.
À 220 mètres.
Il aurait pu m'inviter à prendre le goûter, tu vois,
plutôt ouais, au caviar. Oui. Et en fait, cette formidable ascension qui la vaute, c'est peut-être grâce à cet esprit revancheur qui vous anime.
Je voulais passer les grilles du château.
Exactement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui possédaient de la thune.
Oui, pour retrouver Stéphane, des chroniqueurs qui disent posséder de la thune, ce qui est très différent, notamment David Castello-Lopez. Mais d'abord, Olivier Poul, vous nous parlez du wasabi, c'est ça?
Je vais vous parler de cette petite pâte magique, franchement extraordinaire, mais qu'en réalité, je pense qu'on connaît très mal.
Qui n'est pas celle qu'on croit. Mais tout de suite, Stéphane, David.
C'est David Castello-Lopez, on va remonter aux origines d'une invention, une invention française, cocorico, le Minitel.
Vous souvenez de l'époque, il y a une dizaine d'années, où tout le monde, les jeunes en particulier, ils finissaient leurs phrases par hashtag. Non mais Bruno, il m'a encore laissé un message hier. Non mais hashtag, j'en peux plus quoi. Et mais 20 ans avant le hashtag, il y avait un autre équivalent qui a disparu depuis et qui était 3615. Non mais Michel, 3615, pot de colle quoi. Vous vous souvenez de ça quoi? Et je pense, alors que les auditeurs d'Historiquement Vente ne sont pas particulièrement jeunes, peut-être pas particulièrement, et que donc je pense à peu près tous, ils doivent comprendre de quoi je parle quand je dis 3615, mais pour les autres, je vais quand même dire ce que c'est. 3615, c'était donc un des numéros principaux qu'on devait composer pour se connecter au Minitel. Alors ça reporte la question, hein, et le Minitel, c'était quoi? Eh bien le Minitel, j'en ai apporté un ici. Le Minitel, chers enfants, c'était Internet 15 ans avant Internet. Ça se présentait donc sous cette forme-là, c'est-à-dire un ordinateur rudimentaire avec un clavier à touche qui faisait un bruit caractéristique. Je ne sais pas si vous venez regarder.
Oh, c'est magique.
C'est magique. Moi, ça me ramène...
Une couleur horrible.
Une couleur marron, ouais. Effectivement, pas top. Et cet ordinateur, il permettrait de faire beaucoup des choses qu'on fait aujourd'hui en ligne. On pouvait consulter le bottin, on pouvait acheter ses billets de train, on pouvait connaître les résultats d'un examen. Et surtout, bien sûr, on pouvait accéder à des messageries porno. On composait le 3615 ULA, par exemple, ou le 3615 CUM. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 3615 CUM. Et on pouvait chatter à 13 euros de l'heure avec des jeunes filles qui étaient en fait souvent des hommes dans la fleur de l'âge, derrière leur clavier.
On sent toute la frustration de votre
adolescence. Un tout petit peu jeune. Alors, je vous ai déjà dit, je ne suis pas du genre à être fier de mon pays. Je veux dire, quand la France gagne au foot, je ne dis pas on a gagné, parce que j'ai aussi peu contribué à la victoire de la France qu'à la formation de l'imaginaire érotique de Raymond Barre. Vous voyez, c'est-à-dire très très peu. Et au fond, c'est pareil pour le reste. Le hasard m'a fait naître dans un pays qui est vraiment sympa, mais je ne vois pas pourquoi je devrais être fier. Mais il y a une petite exception à ça, c'est le Minitel. Une exception un peu paradoxale. C'est-à-dire, je suis un peu fier que la France ait inventé le Minitel, alors même que personnellement, je n'ai pas fait vraiment grand-chose pour que le Minitel soit inventé. Certains même disent que je n'ai rien fait du tout. mais c'est un fait. Pendant une dizaine d'années, entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, la France a été à la pointe de la communication télématique dans le monde. Les autres pays, ils nous enviaient le Minitel, y compris les États-Unis, alors que maintenant, ils nous trahissent avec leurs sous-marins mieux, vous voyez. Mais alors, comment est né ce bijou technologique des années 80. Alors le Minitel, il n'aurait pas pu exister sans le réseau qu'il utilisait, qui s'appelait le Transpac, c'est un nom très années 80. Dès le milieu des années 70, il y avait des terminaux qui pouvaient communiquer sur Transpac dans le monde professionnel en France. Mais le grand truc de la France, ça a été de décider de faire de ces terminaux un produit grand public. Ils ont fait un premier test à Saint-Malo avec des terminaux en 1980. Alors à Saint-Malo, c'était des modèles de claviers un peu particuliers. Ce n'étaient pas des claviers AZERTY, c'était des claviers ABCD. Donc dans l'ordre alphabétique, avec le raisonnement des ingénieurs suivants, de toute façon, les gens, ils ne savent pas taper à la machine, donc ils vont préférer que les lettres soient dans l'ordre.
C'était pas con, hein.
Ce qui était en fait une grosse erreur, parce qu'évidemment, ceux qui savaient taper à la machine, ils étaient super énervés, parce qu'ils ne pouvaient pas le taper. Et les autres, de toute façon, ils ne savaient pas taper à la machine, donc en fait, ils auraient complètement pu apprendre l'AZERTY. Et donc, les versions suivantes du Minitel, elles étaient en AZERTY normal. Et après cette expérience, la France, elle a fait un truc qu'elle sait faire assez bien, c'est-à-dire qu'elle a subventionné. Et en gros, le gouvernement, il a payé pour équiper tout le pays entier avec des millions de Minitel gratuits. Et évidemment, quand vous faites ça, vous supprimez plein de barrières à l'utilisation de l'objet et ça a été un énorme succès. Il y a même un moment à la fin des années 90 où le Minitel il dégageait un bénéfice d'1 milliard de francs par an, ce qui est quand même fou pour un truc subventionné au départ. Et évidemment, une des raisons du succès, c'est qu'il y avait des gens qui dépensaient vraiment des quantités d'argent folles sur le Minitel. Il y avait des factures assez régulièrement de 10 000 francs par mois, 1 500 euros, peut-être même 2 000 avec l'inflation. Et probablement, ces 10 000 francs, c'était à chatter sur 3615 ULA avec des filles qui, en fait, étaient des garçons. Alors, bien sûr, à la fin des années 90, le Minitel, il a décliné, en partie, comme très souvent, parce qu'il n'a pas su s'adapter à la concurrence, et à la concurrence d'Internet en particulier. C'était, par exemple, impossible d'afficher des images dignes de ce nom. Le Minitel, il pouvait recevoir que 1,2 kilobits de données par seconde. Okay, c'est 20 000 fois moins rapide que la DSL. Et à votre avis, quand est-ce qu'il a disparu pour de bon, définitivement, le Minitel ?
Très tard, non ?
Plus tard,
peut-être même 2010.
2012, le 30 juin. Le 30 juin 2012. Et moi, franchement, ça m'a fait un petit peu de peine. 36-15, tristesse.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui, chaque après-midi, remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, depuis quelques années, Olivier Pouls, expert gastronomique de notre émission, c'est le wasabi.
Difficile d'y échapper. Ouais. Vous voyez à peu près tous de quoi il s'agit. Est-ce que vous allez manger régulièrement des sushis ou est-ce que vous en faites livrer peut-être chez vous le soir?
Moi, le japonais vient à moi, avec ses petits sachets de wasabi.
Je sais que David aussi, d'ailleurs, il a tout de suite reconnu ce petit sachet que je tiens à la main, qui est donc le sachet de wasabi qu'on vous donne avec vos sushis et qu'on vous conseille de distiller un tout petit peu dans la sauce soja pour amener du piquant. Alors, si vous regardez bien ce sachet, et je vais vous le faire passer, est-ce que vous avez des bons yeux, mon cher Mathieu? Est-ce que vous pouvez me lire ce qui compose ce sachet?
Ingrédients, je le fais. Pâte de réfort et de wasabi. Poudre de réfort 26,7%. Humectant E420. Eau, huile de soja totalement raffinée. Sel, poudre de moutarde. Maltodextine, amidon modifié, huile de moutarde, poudre de wasabi 0,5%, correcteur d'acidité E330, épaississant E415, curcuma colorant E133.
Et voilà.
Produit en Chine.
On va y passer l'après-midi. Voilà. Et ça, et on
Merci
vous prétend que c'est
à la
du wasabi.
Foodex qui habite, à Puteau.
Alors voilà.
On dirait une émission du soir sur France Culture.
Ce qu'on vous présente comme étant aujourd'hui du wasabi. Or, le véritable wasabi, ça n'a rien à voir avec cette espèce de préparation à moitié chimique et industrielle. Le vrai wasabi, c'est dans la culture japonaise depuis plus de 1000 ans. C'est une racine, c'est une plante qui est cousine directement du réfort qu'on connaît chez nous et de la moutarde. Elle contient d'ailleurs de la sinigrine. Qu'est-ce que c'est que la sinigrine? Si vous avez suivi quelques chroniques que j'ai déjà faites ici,
C'est cette petite molécule qui fait que
ça monte au nez et que quand vous mangez du wasabi, vous avez également cette impression. Alors, comme je le disais, c'est une plante qui pousse à l'état naturel au Japon. Elle pousse dans quelques régions très spécifiques et montagneuses parce que c'est une plante qui est semi-aquatique, qui est très longue à croître, entre 18 mois et 3 ans. Et quand on la mange traditionnellement au Japon, chez des gens qui savent vraiment l'utiliser et qui ne sont pas des faussaires à vous mettre du faux wasabi, eh bien, elle est simplement râpée sur une peau de requin. Donc, on prend un morceau de cette plante et on va faire des gestes circulaires sur une peau de requin, ce qui va donner une espèce de petite pâte très fine, un peu onctueuse, et qui est le vrai wasabi que, malheureusement, on ne trouve pratiquement pas chez nous.
On peut se passer de la peau de requin, quand même.
Mais en fait, c'est, on utilise la peau de requin parce qu'elle a un grain très spécifique et donc ça permet vraiment de la râper très finement.
Mais surtout, si on a si peu. Vous dites qu'il y a très peu de plantes de wasabi.
Alors, oui,
elle est très rare.
Elle est toujours cultivée pratiquement exclusivement au Japon. Elle coûte très cher. J'en ai mangé 3-4 fois seulement à Paris, dans des restaurants japonais qui avaient la chance d'avoir un approvisionnement direct en wasabi. Dans certaines épiceries japonaises un peu haut de gamme, on peut en trouver, on peut en commander. Et là, vous allez acheter un petit morceau de 3-4 cm de cette racine qui est le vrai, qui est l'authentique wasabi. Et je peux vous dire qu'en termes de goût, ça n'a évidemment rien à voir avec
ça, c'est de la moutarde pâte. En fait, avec du réfort.
Bah, exactement.
C'est moutarde mélangée avec du réfort. Il y a 0,5%
de wasabi là-dedans.
Même pas du wasabi, c'est de la poudre de wasabi.
C'est de la poudre de wasabi. Alors vraiment, si un jour vous avez l'occasion de croiser du vrai wasabi, n'hésitez pas, parce qu'en termes de goût et de finesse,
c'est
ça
un
n'a
condiment.
Rien à
on
voir.
Me demande, Rémi, ça se mange pareil. C'est un condiment.
C'est un condiment. Comme je vous dis, ça contient quand même beaucoup de sinigrine, donc ça monte très fort au nez. C'est utilisé au Japon à l'origine de manière médicinale, parce que en termes de condiments, c'est très intéressant, mais surtout on l'utilisait parce que ça tue les bactéries. Et on accompagnait ça justement des poissons crus, lesquels pouvaient potentiellement être infectés. Et donc on mangeait du wasabi à côté en se disant, tiens, des fois que mon poisson ne soit pas complètement frais, il va y avoir un effet.
Si le poisson n'est pas frais pour le
préventif.
Sushi,
et voilà. Et donc ça accompagne traditionnellement, évidemment, les sushis et les poissons crus au Japon depuis 1000 ans. Mais on peut aussi l'utiliser dans des préparations. J'ai mangé par exemple de la glace au wasabi. Alors ça, c'est fantastique. C'est une glace qui est faite avec de la crème et avec du wasabi qui est infusé dedans, des jaunes d'œufs, etc. Et là, c'est un condiment qui est vraiment intéressant. Une glace au wasabi sur du poisson cru, par exemple, ou sur des tomates, c'est délicieux. Et je vous mettrai sur le site une petite recette de saumon mi-cuit à la crème de wasabi. Là aussi, faites infuser un peu de wasabi dans une crème et vous allez voir, c'est absolument fantastique.
Bah on a hâte de goûter ça, mon Paul. Ça fait très envie, en tout cas, le vrai wasabi.
Et arrêter avec les
petits
sachets.
Ah non, c'est sympa aussi.
C'est
le vrai wasabi.
Condiment.
Ça se mange. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et les amis, nous y sommes. Nous ne pouvons pas échapper à notre destin.
Il n'y a plus d'amis dans ces cas-là.
Exactement, comme vous le dites, Stéphane, il n'y a plus d'amitié qui compte.
Mais c'est la lutte finale. Et oui, un quiz où personne ne peut tricher.
Sauf Paul, qui est à côté de vous.
Non, mais vous m'accusez de tricher.
Ah, vous êtes penché au-dessus du texte.
Il y en a qui trichent, d'autres qui font semblant. Souvenez-vous, le jour où nous recevions Marc Duguin, moi j'avais vu son film, pas vous. C'était donc de la panique quelques secondes avant qu'il n'entre dans le studio. On a un extrait.
Mais Marc Duguin vient nous en parler.
Mais j'ai pas compris, j'ai écouté la semaine d'après, moi, ça. Oh putain.
Oh,
tu l'as vu, toi?
Oui.
Je vais faire semblant, je suis prêt à très bien faire semblant, tu vas voir.
Et le film était magnifique. C'est dégueulasse, Stéphane. Enfin, mais vous avez trafiqué le son, vous avez dû trafiquer, c'est pas possible.
C'est vos
méthodes.
J'adore
les films de Marc
Duguin. C'est vos méthodes.
J'adore. La chambre des officiers. Ça, j'avais vu la chambre des officiers.
Alors, je commence toujours par vous, Olivier. Parce que vous êtes un bon client. Le 1-2-2 était un établissement de charme à l'époque où, en France, les maisons de tolérance étaient tolérées. On disait le 1-2-2 parce que c'était le seul endroit où l'on pouvait demander 4 dames de compagnie pour une seule personne. Vrai ou faux ?
1-2-2. Non, je crois... Alors après, on va me dire que je connais... Mais je crois que c'est un club échangiste, non ? Me semble-t-il, le 1-2-2 à Paris. Donc je dirais que c'est faux.
Là, quand on parle
d'échangisme, en donnant une bonne réponse,
vous touchez votre bille. On disait le 1-2-2 parce qu'il était au 1-2-2 122 rue de Provence dans le 8e ou 9e arrondissement.
Rue de Provence, c'est le 9e normalement.
Ouais, normalement.
Mais 1-2-2, ça faisait aussi référence au fait que de 1 à 2, c'était un double
jeu de mots. Double jeu de mots, oui. David, c'est pour vous. Est-ce que Léon Tolstoï a vécu suffisamment longtemps pour pouvoir déguster du Toblerone?
Je dirais oui, tout juste, mais ça se joue à quelques années, mais oui.
La barre chocolatée est née en 1908. Et Léon Tolstoï est mort en 1910. Vous voyez ? Mais vous voyez, le problème,
s'il
c'est les deux dernières années, il avait
prendre
plus
l'avion
les dents.
Ou le train.
Il n'avait plus les dents. Comment ? Parce que Toblerone, il faut vraiment avoir de bonnes dents. Hein, pour
On le fait fondre.
Alors, il y a déjà deux bonnes réponses.
Oh là là, j'ai l'impression, là.
Mathieu, vous ne pouvez pas faire moins. Le capitaine Nemo, Trois naufragés, Le Nautilus, le roman d'aventure de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, est publié en 1869. D'ailleurs, quand on parle de 20 000 lieues, c'est la distance parcourue par le Nautilus ou la profondeur à laquelle il est ?
Non, c'est la distance parcourue par le Nautilus.
Bonne réponse.
Bah, ça, j'adore. C'était le. C'était
un lieu métrique, c'est 4 km. Une lieue métrique, c'est 4 km. Donc 20 000 lieues, ça fait 80 000 km de profondeur. Ça fait, c'est vrai que ça fait
ça fait un peu beaucoup. Oui.
Oui. Alors, vous avez tous bien répondu. La question qui départage, et c'est vrai que je vous le dis, la réponse la plus proche remporte la lutte finale. En 1993, sort le film culte avec Bill Murray, Un jour sans fin. Bill revit toujours la même journée. Combien de fois revit-il cette journée d'ailleurs ?
Je dirais 25 fois.
Moi je dirais 42 fois.
Moi je dirais 43.
Ah, l'enfoiré !
Alors vous êtes tous les trois très très loin du compte.
Bah donc c'est David qui gagne. Parce que je m'en fous du résultat, je veux savoir qui gagne.
C'est vous. Mathieu.
Bah non, j'ai dit 42, moi.
À 45.
Bah oui, donc c'est encore David qui gagne avec sa technique de je réponds dernier, je donne plus que le dernier. C'est, ça s'appelle de la triche, mais bon.
12 400 fois.
Non.
12 400 fois.
En fait, la vérité, c'est que moi, j'aurais dit genre 1500, j'étais encore 10 fois en dessous, mais je me suis dit à quoi ça sert de dire 1500 puisque vous avez dit 42.
Mais comment
j'ai dit 43, c'est la même réponse.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève sur la triomphante victoire de David Castello-Lopez. Et si seulement, pour nous remercier d'avoir parlé d'eux, nos personnages du jour daignaient nous filer 1% de leur fortune, on serait riche, Stéphane.
Ah oui, ça doit être formidable d'être riche.
Quel acteur. Bref, lequel de nos heureux héritiers vous a le plus touché, Stéphane ? Marie C, Vincent Astor ou Benjamin de Rothschild ?
Écoutez, c'est Marie C qui m'a le plus touché parce que je vois que parfois, il faut... Trois générations pour bâtir une fortune et il en suffit d'une pour tout détruire.
Ouais, c'est terrible.
Et tout ça en couchant, vous voyez.
Et ne me dites pas, Stéphane, que vous avez déjà le programme de demain. Ça serait trop beau pour être vrai.
Et pourtant, Mathieu, oui, j'ai déjà le programme. Demain, c'est effectivement trop beau pour être vrai. On réunit de vrais faussaires qui ont une autre particularité. Des noms compliqués à prononcer. L'un des faussaires en art les plus adroits, Anne van Meeren, qui a peint des toiles de Vermeer qui n'ont jamais existé. Le faussaire du siècle, Elmire de Horry, qui s'est associé avec un marchand d'art, un poil roublard. Et le dernier, bah, je vous laisse le dire, Mathieu.
Bah, c'est Pai Shen Quan, le peintre chinois qui a imité les tableaux des plus grands artistes américains.
Préparez vos musiques, alors.
Elles sont déjà prêtes, vous savez. À demain, Stéphane. À demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.